Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays qui accomplissez sa loi. C'est la parole du prophète Sophonie qui prophétise après l'épreuve de l'exil, eh bien, un petit reste qui fera la volonté du Seigneur. Et on pourrait vraiment appliquer cette belle image à l'Église. Après l'épreuve, c'est toujours une purification, c'est ce que le texte de Sophonie déclare. Tous les orgueilleux, en tout cas tout ce que l'esprit d'orgueil avait édifié, s'écroulera. C'est l'histoire qui est sans arrêt en marche. Il y a toujours un plus puissant qui se lève contre un autre qui ne l'est plus, mais qui est riche. Et ainsi, il sera dépouillé. Et il sera réduit à l'état d'un petit reste. C'est ce que le prophète Sophonie prophétise à Israël. Et c'est ce qui adviendra. Oui, toutes les richesses du temple et de ses notables seront emportées dans ses royaumes d'Assyrie d'abord, de Babylone ensuite, pour être dispersées. Car l'intention bonne qui présidait au départ à leur fabrication, eh bien, a été perdue. L'esprit de la foi n'existe plus et le seul moyen de le rétablir, dit le prophète, au nom du Seigneur, eh bien, c'est de laisser chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice, ils ne diront plus de mensonges. Dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer, nul ne viendra les effrayer. Eh bien ça, c'est réalisé à travers la parole du Christ pour tous ceux qui l'accueillent. C'est le texte des Béatitudes qui en est vraiment l'illustration. Oui, les hommes recherchent le bonheur. Eh bien le bonheur, nous dit le Christ, et attention, c'est un enseignement non pas secret, mais un enseignement qui n'est recevable que dans la foi, c'est pourquoi il monte dans une montagne. Ça, la montagne, c'est le symbole de l'élévation spirituelle. C'est aussi se mettre à l'écart du monde, cesser de regarder les usages du monde, et on en parle beaucoup en ce moment dans les synodes, et pour ne pas calquer la pensée de l'Église sur celle du monde, mais sur celle de Dieu, la montagne. Alors on va dans cette montagne spirituelle qui est notre intériorité, mais là c'est le Christ qui nous invite en Église sur cette montagne. Et là, eh bien, il livre les secrets du véritable bonheur. Le bonheur, c'est un esprit de sagesse. Et vraiment, les béatitudes doivent être perçues ainsi. C'est la nouvelle sagesse. Il y avait la sagesse des philosophes avant le Christ. Ces grands philosophes qui ont laissé des noms derrière eux, Platon, Aristote et d'autres. Mais la vraie sagesse, eh bien, elle implique la connaissance de la transcendance, elle implique la connaissance de Dieu. Mais c'est bien un esprit d'une sagesse renouvelée que le Christ nous donne. Heureux. Voilà, ce bonheur, eh bien, il est réservé aux sages selon le Nouveau Testament. Aux sages selon le Christ Jésus. Heureux les pauvres en esprit, ceux qui ont un esprit de pauvreté, un esprit de pauvre littéralement. C'est pas le terme cœur qui est utilisé dans le texte en grec, c'est le mot pneuma, c'est le mot esprit. C'est pas, comment dire, avoir des frustrations qui font éclater notre cœur, qui engendrent la béatitude dont nous parle ici Jésus. Non, ce n'est pas les frustrations, ce n'est pas les appétits affectifs que nous pouvons avoir et que nous n'avons pas. Ce n'est pas le grand amour que nous attendons et que nous ne trouvons pas. Non, ce n'est pas ça, c'est un esprit de pauvreté. Un esprit de pauvre, au sens de Sophonie. Et c'est l'humilité, c'est la connaissance de soi que la nouvelle sagesse, eh bien, à travers cette première vertu de pauvreté en esprit, eh bien, nous communique. Elle est placée en première parce qu'elle est la clé de toutes les autres béatitudes. L'humilité est donc la connaissance objective de soi, de ses limites, de sa condition, d'où je viens, où je m'en vais et où je suis. Eh bien, cette connaissance de soi nous met dans un état de profonde humilité. Et réciproquement, l'humilité, eh bien, fait que nous n'avons aucune illusion sur nous-mêmes. Et à partir de là, nous pouvons travailler sur un espace bien défini, notre humanité. Donc c'est la clé de toutes les autres béatitudes. Elle prédispose à toutes les autres. C'est une prédisposition, l'humilité, qui permet de recevoir bien d'autres vertus, bien d'autres béatitudes. Voilà, pour l'humilité, j'aimerais citer saint Antoine dans les apophthegmes. Il disait, saint Antoine, « J'ai vu tous les filets de l'ennemi tendus sur la terre, et je dis en frémissant, qui donc y échappera ? Et j'entendis une voix me répondre, l'humilité. » L'humilité permet vraiment d'échapper à l'ennemi infernal qui nous guette. Nous sommes passés d'un pays de ténèbres à un pays de lumière, comme le prophète Isaïe ou Michée d'ailleurs le proclame. Sophonie précise, c'est un pays qui était destiné à la lumière et qui s'est laissé enténébrer, qui retournera à la lumière mais après la purification. Et l'humilité précisément nous purifie. La connaissance de nous-mêmes nous purifie. Et elle est vraiment une prédisposition au bonheur véritable, c'est-à-dire à l'équilibre tout simplement. De même que le bonheur du corps, c'est la santé. Eh bien, le bonheur de l'âme, c'est la connaissance de soi. Dès lors, notre âme est dans la paix, elle peut recevoir tous les dons que Jésus lui propose librement et gratuitement. Il y a ensuite la seconde béatitude qui est plus paradoxale, ceux qui pleurent. Heureux, et puis son contraire, semble-t-il, ceux qui pleurent. Évidemment, il ne s'agit pas des épreuves matérielles, psychologiques, peut-être spirituelles, en effet, qui affligent les gens. Ceux qui pleurent, c'est en référence à ce que les moines du désert appelaient le pentos, les larmes. Ils pleuraient. Mais quelles étaient leurs larmes? C'était d'abord des larmes de conversion, le regret de leur péché. Trop souvent, même chez les chrétiens, notre sensibilité face au péché est émoussée. Nous ne voyons pas dans le péché une chose horrible, monstrueuse et destructrice. Nous y voyons simplement, trop souvent en tout cas, un manquement à une loi qui a été édictée par quelqu'un qu'on aime bien, c'est Dieu, c'est Jésus, bon, mais ça reste une loi, c'est juste un code à respecter. Ça, c'est une mauvaise appréciation. Le mal, le péché, et donc le péché, c'est l'irruption du mal dans l'âme, eh bien, est quelque chose de profondément monstrueux, de profondément terrible et horrible. Nous devons vraiment de toutes nos forces le repousser. Les larmes, face au péché qu'on avait commis dans sa vie, et on se convertit bien sûr, mais on se rend compte à quel point on est encore pécheur. Ce sont cela, les larmes du pentos que les moines avaient au désert. C'est « Prends pitié de moi, Seigneur, car je suis pécheur. » Ils répétaient ça en boucle toute la journée. Les larmes, c'est ça. Mais il y a aussi d'autres larmes, une fois purifiées par ces larmes-là, car elles nous purifient, ces larmes-là. C'est le travail de l'humilité qui continue, vous voyez, et qui purifie notre cœur et notre esprit. Eh bien, il y aura toujours des larmes, mais plus sur nous-mêmes. Ce seront des larmes pour le salut des âmes, des larmes qui sont des communions à la passion du Christ, des larmes qui sont une union avec le cœur de Jésus attristé de voir ses enfants se détourner de lui. Ces larmes-là ce sont des larmes d'amour, et elles sont ô combien précieuses puisqu'elles nous communiquent la vie. Ensuite, il y a les doux. Les doux, ça évoque la paix, la patience. C'est le don de la consolation. Les doux ont ce charisme de pouvoir consoler les autres qui sont dans l'affliction. Même ceux qui viennent les agresser, les doux savent désamorcer les conflits, comme le font ceux qui viennent à la suite, les miséricordieux. Les miséricordieux, c'est le pardon, la capacité de donner le pardon, de comprendre aussi les limites humaines et donc de ne pas exagérer les offenses. Et le pardon a pour vertu de communiquer l'espérance. Le pardon, c'est mystérieux, mais ça communique l'espérance. On peut, à travers le pardon, entrevoir un salut qu'on n'entrevoyait pas avant. On était prisonnier de son offense, celle qu'on a commise ou celle qu'on a reçue. Et le pardon véritable, qui n'est possible qu'avec une connaissance de soi dans l'humilité, ce pardon-là devient une source d'espérance. D'espérance pour échapper au mal, pour être transformé, pour progresser, pour grandir, pour être protégé par Dieu. La miséricorde, c'est une chose vraiment merveilleuse. Et bien évidemment, elle est le reflet du miséricordieux de Jésus, toute miséricorde. Les cœurs purs, ça évoque bien sûr l'innocence. Les cœurs purs, ce sont les disciples de l'Immaculé, ceux qui ont accepté de consacrer leur cœur au cœur de l'Immaculé, qui est le modèle de la pureté totale. La Vierge Marie nous montre ce qu'est un cœur pur. Et les cœurs purs, c'est l'absence de calcul, c'est la gratuité. La gratuité. Heureux, véritablement, ceux qui ont un cœur pur. Parce qu'ils traversent tout avec une légèreté qui les fait quasiment léviter, dirais-je. Le cœur pur ne s'attache à rien, n'est offusqué par rien. Le cœur pur, est toujours en contemplation de Dieu. Cette innocence qu'on trouve chez les enfants, bien sûr, elle est une chose que nous pouvons reconquérir par la foi, ayons confiance. Demandons au Seigneur de purifier sans cesse notre cœur. Il y a les artisans de paix. Ça évoque vraiment la réconciliation des ennemis. C'est, pour une société, ce sont vraiment des apôtres bénis, ceux qui parviennent, là où ça semble impossible, à faire retrouver la paix entre des adversaires qui communiquent de génération en génération leur haine de l'autre. La haine se communique de proche en proche avec une rapidité qui est celle du feu. On le voit bien à travers les médias. Les médias, quand ils n'hésitent pas à produire forcément, parce que les médias sont des serviteurs du diable, mais des serviteurs, mais en tout cas à attiser la haine à travers des gens qui n'ont aucune raison de haïr. C'est comme ça lorsqu'on veut se mettre en guerre contre une autre nation. Alors là, on met tous les médias au service du nouveau message, du maître mot haine à l'ennemi. Alors que ni le peuple qui déclare la guerre, ni celui qui se défend n'ont quoi que ce soit à se reprocher. Juste une poignée de fous qui les dirigent est à l'origine de ces guerres. Les artisans de paix, véritablement ceux-là sont des êtres merveilleux, mais ça implique d'avoir reçu les autres béatitudes avant de pouvoir exercer un tel don. Ceux qui sont persécutés pour la foi, enfin, ça vient à la fin de la liste. C'est la béatitude, celle de la persécution au nom de la foi, au nom du Christ, qui inclut toutes les autres. Là, le disciple devient pareil au maître. Là, il n'y a plus de différence. Jésus est comme transparent à travers le croyant. Ce n'est plus le croyant qu'on attaque, c'est Jésus lui-même. Ça, c'est l'apôtre devenu vraiment un saint, l'apôtre qui est parvenu au sommet de sa purification spirituelle et de son labeur ici-bas. Alors, concluons avec le prophète Sophonie. J'appliquerai à l'Église ce que Sophonie dit du peuple d'Israël. L'Église doit être un peuple pauvre et petit pour plaire à Dieu. Vous voyez, c'est à notre portée. Pour plaire à Dieu, il n'y a pas besoin d'être grand, d'être intelligent, d'être fort, puissant, je ne sais pas trop quoi, d'avoir plein d'alliés sur la terre, non. Il suffit d'être petit, petit, humble et pauvre, parce que la pauvreté, c'est assimilé à l'humilité, savoir se contenter du nécessaire, et quand on agit ainsi, eh bien, en réalité, toutes les autres vertus se mettent en place. On vit de ce que la vie nous propose véritablement comme source du bonheur. Et dans les familles, les ravages adviennent parce que les gens regardent trop la télévision, sont trop influencés par ces médias et les valeurs qu'elles transportent. Et malheureusement, eh bien, il passe à côté de la divine simplicité, celle que tout homme reçoit au moment de sa naissance, mais qu'il perd, qu'il accepte de perdre à un moment donné ou progressivement au long de sa vie. Retrouvons cet esprit, eh bien, cette pureté de cœur, retrouvons cette pauvreté d'esprit qui nous sauvera et qui fera tellement plaisir à Dieu.